wandert singend fahl in den ew'gen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht, was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt. So viel Himmel hat Baal
unter de cinéma, lundi 1er décembre 2014. Baal de Fassbinder.
Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal, war der Himmel noch so groß und still und fahl. Jung und nackt und ungeheuer wunderbar, wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.
Voilà, 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 nous y sommes. Donc ce soir, à Radio Galère, nous avons le plaisir d'accueillir Jeanne Bromberger, historienne du cinéma. Nous sommes aussi avec David Yon, Fabrice Coppin, pour une émission autour du film Baal de
Volker Schlöndorff.
Voilà, et aussi de l'histoire du cinéma allemand, du jeune cinéma allemand. Bonsoir à vous, bienvenue, au plaisir.
Et Guten Abend pour ceux qui parlent allemand.
Bon, ça a commencé par un joli lapsus quand même, Lolo, merci. C'est effectivement, vous l'avez pu le constater, pas un film de Fassbinder, mais de Schlöndorff. Voilà. Mais c'est, en fait, c'est intéressant parce que, du coup, on en parlait tout à l'heure avant de passer à l'antenne avec Jeanne. Et on reviendra dessus sur le personnage de Fassbinder dans ce film qui est bien sûr excessivement important. Bon, bah Jeanne, merci beaucoup d'être avec nous à cette émission. Personnellement, j'ai loupé la projection avec vous, avec votre présentation aux variétés, mais je l'ai pas loupé de le voir. On n'a pas loupé de le voir aux variétés.
On l'a vu le jeudi, voilà.
On a vu le jeudi. Trois. Et donc,
on a eu envie, du coup, après avoir vu le film, de faire une émission autour du film et du coup de vous inviter.
Merci beaucoup.
Alors peut-être pour commencer, Baal, pourquoi ce titre ?
Alors, Baal, il faut remonter à 3500 ans en arrière pour savoir qui est Baal. Baal, c'était un dieu qui était vénéré dans la région du monde qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, donc essentiellement chez les Phéniciens, chez les Chaldéens et chez les Mésopotamiens. Donc, tout ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, la Jordanie, le Liban, Palestine-Israël. Palestine-Israël, c'est, je mettrai un peu ça de côté, vous allez voir pourquoi. C'était un dieu très particulier qui, en fait, avait plusieurs visages. Donc, à ce nom de Baal, qui voulait dire, en fait, le maître, dans les langues, la langue sémitique de l'époque, on rajoutait, selon le visage qu'on lui donnait, une sorte de prénom. Donc Baal, c'était son nom, et puis il avait son prénom. Et par exemple, on connaît encore aujourd'hui une ville du Liban qui s'appelle Baalbek.
Ah oui.
Qui était donc un des prénoms. Alors Baal, bien sûr, et Bek, qui était son prénom. Et il y en avait d'autres. Il y avait Baal Amon, il y en avait plein. Et c'était un dieu très intéressant, toujours par rapport au film, parce que d'abord, c'était le dieu des orages. Donc c'était un dieu qui était à la fois souhaité et redouté, comme les orages. Et c'était un dieu hermaphrodite, puissamment hermaphrodite, parce que les hermaphrodites dans la vie réelle, en général, ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ont les deux sexes, mais un peu atrophiés. Mais ce n'était pas du tout le cas de Baal, qui avait ses deux sexes extrêmement développés. Donc, vous voyez aussi à quoi ça correspond dans le film. Et il travaillait en tandem, si j'ose dire, avec une déesse qui s'appelait Astarté. Et voilà, donc c'était un dieu qui avait ses adorateurs. Le plus grand temple qui lui était consacré se trouvait dans la ville qui est aujourd'hui la ville martyre de Homs. Et voilà, donc c'était un dieu très, très intéressant qui aimait beaucoup l'ivresse. Ça aussi, c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans le film. L'ivresse et le sexe. Donc, si vous voulez, le caractère premier de Baal, le dieu Baal, on le retrouve dans le film quasiment à l'identique, hein. Ce sont les caractéristiques du personnage principal qui s'appelle Baal, donc ce goût pour l'ivresse, pour la nature aussi, donc c'était le dieu des orages, il y avait un côté cosmique chez Baal qu'on retrouve dans le personnage principal puisqu'il a tout le temps cette tendance à dire des poèmes à la nature. Et j'ai dit le sexe, la boisson et la nature. Et en fait, ce Baal, il va lui arriver une drôle de chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je mets Palestine de côté, parce que les anciens Hébreux, qui étaient déjà des monothéistes à l'époque, avaient une sainte horreur de ce dieu Baal. Qu'ils ont diabolisé très vite. Et quand le christianisme est apparu comme une sorte de prolongement à la religion hébraïque, ils ont repris cette diabolisation de Baal que vous retrouvez donc dans des noms de démons qui sont encore relativement connus aujourd'hui, comme Belzébuth, par exemple, Belphégor. Voilà. Et donc, il y avait toute cette attribution. C'était un des démons majeurs. Et quand on pratiquait les exorcismes, Baal était un des plus difficiles à expulser, si j'ose dire, spécialement chez les jeunes vierges, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, le nom est très important parce qu'il renvoie à une mythologie qui déjà caractérise très fortement le personnage. Voilà, donc ça, c'est pour peut-être dire quelques mots sur le personnage principal qui est donc caractérisé d'emblée par cette référence à ce dieu païen et antique.
Juste pour préciser que c'est un film, on n'a pas dit, il datait de
1969.
Voilà.
Alors justement, on peut rebondir peut-être, je ne sais pas, David, tu avais peut-être une question juste après.
Je me demandais par rapport à Dionysos. Baal, Dionysos, il y avait des liens.
Oui et non. Disons que Dionysos peut être un des avatars peut-être de Baal, puisque Baalbek, en fait, quand le nom de la ville va être hellénisé, ça va devenir Héliopolis, donc effectivement la ville du dieu soleil. Et Baalbek, c'est le dieu soleil. Voilà.
D'accord.
Donc, il peut y avoir aussi ce rapport-là.
Il y a des représentations de Baal qui existent ?
Oui, il y a quelques stèles, quelques statues, où, comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'hermaphrodisme est très visible.
D'accord.
Donc on est en 69.
Oui.
Schlendorf... d'après ce que j'ai lu, vient en France pour faire ses études de cinéma. Il fait la Fémis. Il la quitte très vite, apparemment, parce que peut-être que ça lui convient pas. Alors j'en sais rien.
Oui.
En 69, on est dans la période où quand même on a envie de dire des choses. Donc il est très inspiré par la nouvelle vague, hein, par Godard un petit peu. Enfin.
Oui. Alors ça, c'est toujours assez ambigu. Mais surtout, il y a quelqu'un qui l'inspire, c'est Brecht, parce que Baal, c'est une adaptation extrêmement fidèle de la pièce de Brecht, la première pièce qu'il a écrite. Et donc, je ne saurais pas vous dire si c'est lui qui fait cette proposition à la télévision allemande, puisqu'au départ, c'est une adaptation qui est destinée à la télévision allemande, ce qui paraît quand même incroyable aujourd'hui, parce que la pièce elle-même est déjà assez sulfureuse, pour ne pas dire très sulfureuse. Et c'était quand même quelque chose qui était destiné à ce qu'on appelle aujourd'hui le prime time. Donc on n'imagine pas vraiment aujourd'hui, époque dite libérée, qu'on puisse passer ce type de programme. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui. Donc les gens étaient condamnés, entre guillemets, à voir ce genre de choses à une heure de grande écoute. Et donc, comme je vous le disais, je ne sais pas exactement dans quel sens ça s'est passé. Est-ce que c'est la télévision allemande qui a demandé à Schlendorf de travailler sur cette adaptation télévisée, ou si c'est Schlendorf qui est allé voir la télévision allemande? Mais enfin, le résultat est qu'effectivement, ça s'est mis sur les rails, je dirais, de façon pas très compliquée. Pas très compliqué. Alors, peut-être revenir sur la pièce de Brecht un petit peu, parce que ça explique, là aussi, ça donne quelques clés pour, par rapport au film. Brecht a 19 ans, quand il écrit cette pièce, il est encore étudiant, il l'écrit sur pratiquement une année, entre 1918 et 1919, donc juste à la fin de la Première Guerre mondiale, et à une époque où il n'a pas encore les convictions marxistes pures et dures qu'il aura par la suite. Ce qu'il ne veut pas, c'est la société, mais je crois que tout poète et tout artiste ne peut jamais accepter la société telle qu'elle est. Donc, il est en révolte contre ça. Et il y a deux ou trois personnages dans l'histoire de la littérature qui le fascinent totalement. Le premier, c'est François Villon. Il est tellement fasciné par ce personnage de à la fois de poète, assassin, voleur, qui a disparu, réapparu, qui a fait de la prison, etc. et qui a écrit des poèmes magnifiques en plus. Donc il est tellement fasciné par ce personnage qu'il décide en fait de lui consacrer une pièce. C'est ça son idée première quand il écrit Baal, c'est en fait la transposition de la vie de François Villon.
Personnellement, je ne connais pas du tout ce poète.
Alors,
Fab, tu connais ? Non.
Alors, François Villon, c'est un poète du Moyen-Âge. Pratiquement, on ne peut pas le lire aujourd'hui, c'est vraiment un très vieux français, donc il faut, à moins qu'on soit vraiment versé dans l'ancien français, mais je vous assure que c'est un des plus grands poètes français, c'est vraiment magnifique. Il a écrit notamment, quand il a été condamné à mort, il a donc écrit La Ballade des Pendus, qui est un des plus beaux poèmes de la langue française. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois que Brassens l'a mis en musique une ou deux fois.
L'eau, si tu peux chercher, si ça existe. La Ballade des Pendus, chantée par Brassens.
Alors, peut-être pas La Ballade des Pendus, mais en tout cas, je pense qu'il a mis des poèmes de... c'est La Ballade des Dames du temps jadis, je pense qu'il a dû mettre en musique. Donc si vous trouvez, ce serait génial.
Oui, Reggiani.
La Ballade du temps jadis.
La Ballade des Dames du temps jadis.
D'accord, on va l'écouter alors.
Voilà.
Où, dans quel pays, effleura la belle romaine Archibiade Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrion mène le surivier. rivière ou sur étang, qui beauté eût-on plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eût-on plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtrait fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine? Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en scène? Mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Beatrice Alice, à Rambourgis qui teint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, quand les brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan?
C'est des paroles de François Villon, du coup.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la balade des dames du temps jadis. Et donc, le poème dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a écrit juste avant sa condamnation à mort, qui s'appelle La balade des pendus.
D'accord.
Et donc, ce François Villon a quand même eu une vie qui ressemble beaucoup, là aussi, au personnage de Baal, notamment par le fait qu'il a été pris dans une rixe et qu'au cours de cette rixe, il a tué quelqu'un. Et donc, c'est un élément qu'on retrouve quand même dans le film. Ce côté voyou que peut avoir Baal, à la fois poète et voyou, c'est vraiment le personnage de François Villon. Et puis, il y a deux autres poètes qui marque aussi beaucoup le jeune Brecht, qui le fascine, c'est deux autres poètes maudits, puisque François Villon est le premier poète maudit, en quelque sorte, et les deux autres, c'est Arthur Rimbaud et Verlaine.
Ça, on connaît.
Voilà, ça, vous connaissez, c'est plus récent. Et notamment, évidemment, ce qu'on retrouve dans la pièce et qu'on va retrouver ensuite dans le film, c'est le fameux épisode de Bruxelles où, disons, à la suite d'une scène de jalousie entre Verlaine et Rimbaud, Verlaine tire sur Rimbaud, le blesse. Et je crois qu'il est arrêté, et il fait de la tôle à la suite de ça. Bon. Donc, disons, une relation homosexuelle mouvementée, passionnée et mouvementée, avec toujours, chez Verlaine, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le film, une femme au milieu, puisque Verlaine, en même temps, ne veut pas quitter sa femme. Donc, il veut à la fois retourner auprès de sa femme et en même temps continuer son aventure avec Rimbaud. Donc, tout ça sont des éléments dont se sert Brecht, en fait, pour écrire sa pièce. Donc, il mélange ces deux histoires, celle de Villon d'un côté, celle de Rimbaud et de Verlaine de l'autre. Et c'est comme ça, en fait, qu'il constitue le personnage de Baal dans ses rapports, avec le monde. C'est-à-dire, moi, je trouve que le personnage de Baal est très rimbaldien dans ce sens qu'il a, si je puis me permettre une expression un peu triviale, il fait tourner les gens bourriques autour de lui tout le temps, quoi. Les gens sont complètement fascinés, un peu comme Rimbaud fascinait tous les gens qui l'ont connu. Il était beau, il était brillant, il était séduisant, et les gens autour de lui étaient attirés comme les papillons par la lumière. Et lui en profitait, il y avait une sorte de presque de moi je dirais presque de méchanceté aussi, une forme de méchanceté, en tout cas une forme de domination qui faisait, qui jouissait de voir les autres comme ça tourner autour de lui. Et ça, on le retrouve bien dans Bâle quand même, je pense, enfin... Si vous êtes d'accord ou pas avec mon interprétation, mais c'est quand même, il est très dur avec des gens qu'il aime.
Alors on dit que, enfin, je crois avoir vu que Schlendorf voit à peu près toutes les adaptations de, enfin toutes les œuvres de Brecht, etc. Il s'en nourrit beaucoup. Mmh. Mais seulement en Bâle, cette adaptation est très peu donnée, semble-t-il. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle est déjà dans sa forme au moment de Brecht ? Est-ce qu'elle est déjà, elle pose déjà problème ?
Alors, c'est vrai que Brecht, comme je vous l'ai dit, c'est la première pièce qu'il a écrite et c'est vraiment une pièce de jeunesse.
Il avait quel âge ? Il
avait 19 ans.
C'était 1918, c'est ça ?
Oui, 18-19, il l'écrit sur un an et il va la reprendre 5 fois. Cette pièce-là, il va la reprendre en fait tout au long de sa vie. Donc, on en connaît 5 versions différentes. Celle qui est mise en scène le plus souvent, car c'est une pièce qui est encore jouée pratiquement de partout, de façon très régulière. J'ouvre une parenthèse pour dire, par exemple, qu'elle a été jouée. Il y a eu une commande de la BBC. Donc la télévision anglaise en 82, et le rôle de Bâle a été confié à David Bowie, qui est assez méconnaissable d'ailleurs, parce que lui qui est toujours très propre, là il a une grosse barbe en fait, etc. Donc, et David Bowie s'est beaucoup amusé à jouer ce personnage qu'il a trouvé être le super punk par excellence, son expression quoi. Voilà, donc pour dire que c'est une pièce qui est beaucoup jouée, et je pense que Brecht, tout au long de sa vie, en fait, était, je dirais, très ambigu par rapport à cette pièce, parce qu'il n'a jamais voulu dire c'est une pièce de jeunesse anarchisante. Moi, maintenant que je suis devenue un marxiste respectable, je la rejette. Il n'a jamais voulu dire ça. Mais en même temps, il l'a modifiée de manière à la rendre moins révoltée. C'est-à-dire que l'interprétation, puisque la pièce qui est actuellement jouée, c'est la dernière version voulue par Brecht. Et en fait, ce qu'il essaie de dire, ou plutôt ce qu'il prétend, moi je pense que ce n'est pas si clair que ça, c'est que cette révolte de Bâle qu'on voit dans la pièce et donc dans le film, c'est une révolte individuelle qui ne peut aboutir à rien d'autre que l'autodestruction. Précisément parce qu'elle est individuelle et que... Si on doit changer le monde, ça doit être une entreprise collective. Ça, c'est la position officielle de Brecht. Et je pense que c'est ce qu'il essaie de dire au fur et à mesure de ses versions successives. Mais le vieux fond anarchisant, en fait, il reste et il reste bien là, quoi.
Jeanne, je crois que l'eau me fait des signes que quand vous tapez comme ça sur la table, les auditeurs entendent des sons de tonnerre, c'est Bâle qui se réveille.
Bâle, oui, excusez-moi.
Qui est là.
Donc, on est rentré en saturation, David, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est pas génial parce qu'en fait, les micros sont attachés à des espèces de lampes de bureau.
Ça transmet. Là,
et c'est les ressorts qui vibrent.
Hein. J'ai compris, voilà. J'ai compris.
Mais voilà, c'était une petite précision technique. Alors en fait...
On en était à révolte individuelle, voilà. Révolte collective.
Voilà, Schlendorf, il choisit du coup quelle version ? Est-ce qu'il revient à... Il s'inspire de quelle
Non, écoutez, j'ai relu la pièce là, justement pour la sortie du film. Moi, j'ai l'impression qu'il a adapté la dernière version, enfin celle qui a été voulue par Brecht. Voilà. Donc, il fait rien d'exceptionnel. Il adapte Brecht très fidèlement, y compris dans ce découpage qui peut-être nous étonne aujourd'hui. Hein, c'est presque un découpage en scène ou en acte, comme la pièce, avec ses intermèdes musicaux. Qui sont aussi déjà dans la pièce, sauf qu'ils changent la musique. Bon. La musique, Brecht l'avait confiée à un musicien évidemment contemporain, donc quelqu'un qui avait à peu près le même âge que lui. Et ça, Schlondorf, il en veut pas. Donc, il n'en veut pas parce qu'il adapte la pièce. En revanche, ça, il annonce la couleur. Il dit que ça se passera en 69, donc au moment où il tourne. Et il confie, on l'a entendu tout à l'heure, il préfère de la musique blues, on va dire, pour scander ces passages musicaux plutôt que la musique du temps de Brecht. Voilà. C'est, à mon sens, c'est le plus gros changement qui intervient sur la pièce, c'est le refus du musicien d'origine pour en prendre un autre.
Et pour pouvoir adapter Bâle, il avait l'autorisation
Oui, parce que alors Brecht était mort à ce moment-là. Hein, il meurt, je crois, au début des années 50. Mais sa veuve, qui est donc son ayant droit, est parfaitement d'accord au départ pour qu'il y ait cette adaptation pour la télévision. Ça ne peut être que bien pour l'éducation populaire hein, de... Que cet auteur, il y a une blague qui court en Allemagne à cette époque-là, parce qu'évidemment, tout le monde, en fait, tous les gens qui sont en Allemagne de l'Est essaient d'aller en Allemagne de l'Ouest. Et on dit que le seul qui essayait de faire le mouvement inverse, c'est Brecht. En fait, voilà, c'est le seul qui soit passé de l'Ouest à l'Est. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, donc pour dire que sa veuve est tout à fait d'accord pour que la pièce soit adaptée à la télévision allemande à cette époque-là, bien sûr.
Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où la veuve de Brecht regarde Bâle à la télévision?
Justement, là, ça ne va pas du tout. D'abord, elle est effectivement outrée de la musique. Elle pense que l'œuvre est amputée à cause de ça. Et puis surtout que Schlondorf n'a pas respecté... En fait, Brecht a inventé un style de mise en scène théâtrale bon, qui est toujours pratiqué par certains. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la distanciation brechtienne qui consiste en fait à faire en sorte que le spectateur ne soit pas n'entre pas, si vous voulez, dans la peau du personnage, ne s'identifie pas au personnage. Ça, c'est, on va dire, dans le théâtre habituel, normalement, pour que la pièce fonctionne, le spectateur doit s'identifier au personnage. Et ça, Brecht le refuse. Parce que il dit que précisément ça empêche sa réflexion. Donc il veut que le spectateur reste intéressé mais en dehors du personnage de manière à éveiller sa conscience et notamment sa conscience politique. Et donc c'est ce qu'on appelle la distanciation.
Et dans le cinéma, vous avez des exemples de distanciation brechtienne?
Brechtienne, je ne sais pas, mais Godard, par exemple, l'a beaucoup pratiqué. Ce refus, il y a eu tout un courant précisément dans ces années-là, ces années de contestation, qu'on pensait que cette identification, c'était l'abandon de sa réflexion, puisqu'on se laisse complètement absorber par l'œuvre. On accepte donc n'importe quel message qui est véhiculé à condition que ce soit enrobé, on est capté, capturé par l'œuvre. Et donc, oui, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues dans ma jeunesse. Il fallait surtout pas s'identifier. Il fallait surtout pas s'identifier. Donc, tout ce qui cassait le récit, tout ce qui empêchait qu'on adhère, je dirais, spontanément à l'histoire... oui, le Godard en particulier.
Donc ça veut dire que le dispositif est visible, par exemple.
Enfin, ça voilà, peut être. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être l'intervention, par exemple, chez Brecht, c'est presque systématique, mais on le trouve aussi dans le cinéma de cette époque-là. C'est l'intervention d'un récitant, d'une voix qui fait un commentaire sur l'action, par exemple. Donc, il y a toute une série de processus. Et en fait, c'est un style de théâtre et de cinéma qui s'oppose totalement, je dirais, à l'Actor Studio, par exemple. Où là, à la fois, le comédien et, par contre-coup, le spectateur fait complètement corps avec le personnage. Donc, vous avez, à la même époque, vous avez vraiment deux écoles complètement différentes. Et une des choses que va reprocher la veuve de Brecht à Schlöndorff, c'est que précisément, donc, il y a cette histoire de musique, il y a aussi cette histoire de jeu qui fait qu'il n'y a pas cette mise à distance des personnages. Et donc, elle pense qu'il y a complètement trahison. Voilà.
Vous pouvez détailler quand vous dites cette question de jeu, c'est-à-dire...
On n'a pas encore évoqué, ah si, Lowe a évoqué le nom au début de l'émission, mais on n'a pas encore parlé de l'acteur.
De l'acteur.
Oui, et puis oui, de l'acteur et donc du jeu qui fait que, selon la veuve de Brecht, il n'y aurait pas suffisamment de distanciation.
Oui. Bah oui, l'acteur, c'est Fassbinder. Fassbinder, à cette époque-là, alors... Il faut peut-être remonter, encore une fois, excusez-moi si c'est un peu confus, mais il y a tellement de choses à dire. Alors, il faut reprendre, là on est en 69, mais il faut revenir un tout petit peu en arrière, en fait, en 62. En 62, il se passe quelque chose de très important dans un festival de courts-métrages qui se passe dans la ville de Oberhausen. Il y a là un certain nombre de cinéastes, de jeunes cinéastes qui soit ont fait quelques courts-métrages, soit aspirent en fait à devenir cinéastes, qui vont signer un manifeste, qui va prendre le nom de Manifeste d'Oberhausen et qui est en fait l'acte de naissance du jeune cinéma allemand. Et parmi ces signataires, il y a Schlöndorff, il y a Fassbinder... Herzog, enfin pratiquement tous les grands du cinéma allemand qu'on va retrouver par la suite, ils signent tous manifeste. Et notamment, qu'est-ce qu'ils reprochent au cinéma allemand de l'époque, qu'ils rejettent absolument, c'est d'être un cinéma de pur divertissement, et dans leur bouche, c'est une insulte grave. D'être du cinéma de divertissement, c'est de n'avoir aucun fond politique et social. Et donc, ils veulent en finir avec ce cinéma qu'ils trouvent complètement débile.
C'est un peu l'équivalent de ce qu'ont fait Truffaut et Godard.
Voilà. Mais je pense que... Oui, on pourrait dire ça. C'est... Quand Truffaut, par exemple, attaque une certaine tendance du cinéma français, hein, c'est un peu la même chose, effectivement. Sauf que l'histoire des deux pays n'est pas la même. Et que ce qu'il y a de très lourd en Allemagne, c'est évidemment toute la période nazie. C'est tous ces cinéastes qui signent le manifeste d'Oberhausen sont tous des gens qui sont nés... soit pendant la guerre, soit juste après, donc on va dire entre 42 et 45. Et donc ils ont eu des parents qui ont été plus ou moins impliqués, et certains même parties prenantes, dans le régime nazi. Bon, soit ils ont laissé faire, soit carrément ils y ont participé. Donc, c'est cette jeune génération qui arrive va être violemment opposée à leurs parents. Et en revanche, ils vont se retourner, et ça explique aussi le choix de Schlendorf par rapport à Brecht, ils vont se retourner vers la génération des grands-parents. Donc ils vont rejeter violemment les pères et ils vont au contraire retourner aux grands-pères. Et donc on l'a vu en théâtre, mais ça va être la même chose pour la peinture. Où ils vont s'intéresser à tout ce courant qu'on appelait l'expressionnisme allemand, et qui est une peinture, elle aussi, violemment sociale. Donc c'est surtout des peintres qui ont peint l'horreur de la Première Guerre mondiale, comme Otto Dix, par exemple. Et donc, voilà les peintres. Et il y a eu aussi des cinéastes, donc Murnau, Fritz Lang. Et c'est pas pour rien qu'il va y avoir des remakes de Nosferatu qui sera faite par cette génération-là. Des citations de Fritz Lang aussi dans beaucoup de films. Donc, c'est vraiment retrouver les grands-pères, l'art des grands-pères, tuer complètement les pères. Et chacun de ces cinéastes, en fait, va avoir avec sa personnalité propre ce désir de regarder le monde d'un œil neuf, rejeter complètement le nazisme, les compromissions. Et peut-être que ça restera un cinéma plus violemment politique, finalement, que la nouvelle vague française.
On n'a pas évoqué le nom de Werner Schroeter. Et je me demande, celui qui a réalisé Hitler, un film d'Allemagne.
Oui, alors lui n'est pas signataire.
Il est un peu plus âgé, non?
Oui. Mmh. Je vous avais relevé quelques noms. Certains sont relativement inconnus aujourd'hui, d'autres moins. Parmi les signataires, il y a donc Alexander Kluge. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire certains de ses titres parce que je les trouve extraordinaires. D'abord, Alexander Kluge, c'est celui qui, historiquement, est le premier à passer au long métrage avec un film qui s'appelle « Les artistes sous le chapiteau perplexe ». Ensuite, « Travaux occasionnels d'une esclave ». Ensuite, « Dans le danger et la plus grande détresse, le juste milieu apporte la mort ». Donc, il a des titres absolument extraordinaires. Bon, l'autre, c'est Wenders, qui
malheureusement a mal vieilli.
A malheureusement mal vieilli, oui. Je pense honnêtement que quand on voit tous les films de cette génération-là, bon, Fassbinder, il est mort à 37 ans, donc il n'a pas pu voir le désastre qui a suivi, si j'ose dire. Mais quand on a cru, comme tous ces gens, qu'on pouvait changer le monde, qui se sont battus à travers leurs films et à travers leur vie aussi, pour changer le monde, et quand on voit quand même ce que c'est aujourd'hui, vous savez, quand on voit le film Baal, par exemple, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas possible entre ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait penser, la manière dont on percevait l'ordre et le désordre en 69, et puis la manière dont on perçoit l'ordre, le désordre, la révolte, le chaos aujourd'hui. On se dit qu'on, je sais pas, on est revenu, j'ai même pas au Moyen-Âge, quoi, dans un conformisme qui glace le sang, quoi,
c'est vrai, et on le voit dans le cinéma aussi.
Et on le voit dans le cinéma, bon, Herzog c'est pareil, Schroeter, Schlendorf. Bon,
mais on disait qu'Herzog, justement, il avait bien vieilli, il avait résisté.
Herzog, lui, il a trouvé l'échappatoire. Il a trouvé Fassbinder, dans un sens, il a trouvé une échappatoire terrible qui est la mort. Herzog, lui, il a trouvé l'échappatoire qui est de trouver des gens qui sont des fous furieux et de les suivre et de les filmer. Mais il s'est fait un monde à lui. Et puis il est quand même passé par des stades de folie profonde, parce que le tournage de Fitzcarraldo, par exemple, où il y a eu quand même des morts sur le tournage.
Pour ceux qui ne connaissent pas le film Fitzcarraldo de Herzog, là, juste pour l'histoire, c'est il fabrique un bateau qui fait porter par...
Oui, on pourrait presque dire un paquebot, parce que quand on est en bateau, on pourrait penser que c'est un pointu. Non.
Une espèce de bateau à roues.
Qu'on fait glisser comme ça à travers l'Amazonie, de manière à rejoindre je ne sais plus quoi, enfin une espèce d'utopie.
Et alors on lui propose de faire une maquette et puis il n'en veut pas en fait, il veut vraiment un vrai bateau.
Un vrai bateau, oui, un vrai bateau avec des gens qui le montent véritablement comme il a pu être porté, c'est-à-dire vraiment à dos d'homme.
Et ils doivent passer avec une espèce de montagne pour traverser l'autre rive, etc. Voilà.
Alors, c'est vrai que la solution qu'a trouvé Herzog, c'est de trouver quelques fous dans le monde comme ça, et de continuer à les filmer. Et je trouve qu'il vieillit bien de ce point de vue-là. Wenders, c'est vrai qu'après Les Ailes du Désir, Paris, Texas, je crois qu'il a plus trouvé matière à... Je sais pas, il avait plus rien à dire.
Ouais, il y a de toute façon une énergie, je pense, à un moment donné, qui sont ces énergies comètes, un peu comme Fassbinder, qui s'est brûlé les ailes jusqu'au bout, mais il y avait quelque chose de l'ordre d'un jusqu'au boutisme total, en fait, d'un absolu.
Schroeter aussi a continué jusqu'à la fin de sa vie à faire des films absolus.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance à penser qu'un artiste ne peut pas être dissocié de son époque. C'est-à-dire que tant que vous vivez dans un temps qui permet en quelque sorte cette révolte, cette folie, ce non-conformisme, où les pressions financières ne sont pas... plus forte que l'artiste, j'ai envie de le dire comme ça. Elles existent toujours, bien sûr, surtout dans le cinéma. Mais quand même, l'artiste arrive à dominer le système économique si vraiment il y met de l'énergie. Bon. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout est verrouillé, si j'ose dire. Et je ne vois pas bien des gens comme... Même là, le fait que Schlendorf se soit battu comme un damné pour ressortir un film qu'il a fait en 69, pour moi, c'est ça aussi que ça veut dire. À la fois, il a besoin de dire, mais regardez ce qu'on pouvait faire en 69. Et en même temps, c'est parce que peut-être il ne peut plus faire la même chose. Donc, ça pose question, quoi.
Ça pose des grosses questions, très contemporaines.
Ça nous pose des questions.
Donc on va se mettre une petite page de musique avant de pouvoir s'en poser d'autres, puis on va continuer un peu sur l'histoire de ce jeune cinéma allemand qui, moi, me fait penser un peu au jeune cinéma italien et la place de l'histoire et du contexte. Alors on continue sur la musique de Bâle. Non, c'est pas ça la musique de Bâle.
Si. Non, ce n'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Je pense que c'est ton. C'est Georges Brassens qui continue, je sais pas. Qu'entendons-nous?
Je ne saurais dire.
Non, je ne saurais dire ce qu'on entend. Bon, écoutez, on va continuer le temps que je trouve.
Bon, alors, j'en profite pour poser une question. Quel, Qu'est-ce que vous voyez comme point commun du coup entre Schlöndorff et qu'est-ce qui lie Schlöndorff à Brecht vraiment dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont, dans ce qui est-ce qu'ils sont dans le voilà, qu'est-ce qui les lie soit politiquement par rapport à leur temps, à leur époque, qui sont quand même différentes, parce que finalement à eux deux ils retracent quand même un temps important de l'histoire de l'Allemagne. Et en même temps, personnellement, qu'est-ce qui se lie entre eux ?
Vous voulez dire entre Schlöndorff
et... Entre Schlöndorff et Brecht.
Et Brecht ?
Si on devait... S'ils devaient être l'un à côté de l'autre, qu'est-ce que...
Oui. Moi, j'aurais envie de dire... En tout cas, le Brecht de Bâle, j'aurais envie de dire le refus de la société établie. Le refus de la société établie, le fait que le poète... C'est un perturbateur. Et encore une fois, le refus de cette société qui est la société, la bourgeoisie. Il y a à cette époque-là, quand toute cette génération, pas seulement Schlöndorff, mais tous, là, tous tels qu'ils sont, tous ceux qu'on a cités, ils ont une haine féroce de la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie allemande à l'époque, avec le miracle économique allemand, etc. Tout ça ronronne. Bon, il y a d'une part l'Allemagne de l'Est, on n'en parle pas, il y a le mur, et de l'autre côté, business. Et il n'y a pas de place pour la poésie, il n'y a pas de place pour le rêve, on ne parle pas trop du passé qu'on a mis sous le tapis. Et cette génération-là, c'est ça qu'elle va refuser.
Et Brecht, en sortie de la guerre, dans quelle situation il est politique ?
Ah ben lui, c'est quelqu'un de gauche, très, très ouvertement de gauche. Donc, et ça, il le restera toute sa vie. Donc, c'est des gens qui sont, comme Brecht d'ailleurs, des pacifistes. Il y a vraiment une cohérence. Il y a vraiment une cohérence. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais voilà, c'est ce refus du conformisme, ce refus de la bourgeoisie, de l'attitude bourgeoise dans la vie, des valeurs bourgeoises. Voilà, c'est ça qui relie vraiment Brecht et Schlöndorff et toute cette génération.
Il y avait des femmes dans... les signataires de ce manifeste ?
Alors, je ne crois pas, parce que le féminisme n'en était qu'à ses balbutiements, mais il y en a une qui va se faire une place par la suite, c'est précisément une actrice qui apparaît dans Bâle, qui va devenir la femme de Schlöndorff, qui est Margaret von Trotta.
Qui est l'actrice principale, du coup.
Qui est l'actrice principale. Et qui va, elle, être effectivement la grande réalisatrice de ce jeune cinéma allemand.
Léo, tu veux lancer, du coup, je crois que tu as retrouvé.
Oui, je l'ai retrouvé. C'est la nouvelle installation à Radio Galère. Il y a deux ordinateurs. Donc, normalement, là, ça devrait être bon. On se met un petit peu de musique du film Bâle.
C'est pas sécheux.
Ça commence pas tout à fait 1h20, c'est la musique de la fin. Tu m'avais dit 1h20, c'est ça ?
Bah écoute,
ça doit être 1h21.
Non, ça commence, tu vois.
Ah, ça commence, c'est bon.
Was geht dich das an ?
Wie viel ist das ?
11 und ein Viertel.
Fassbinder est allongé dans un lit dans les bois. Les bûcherons sont sortis.
Und ein Mann starb im ewigen Wald, wo ihn Sturm und Strom umbrauste.
Et c'est Fassbinder lui-même qui parle. Hein.
Starb wie ein Tier in Wurzeln eingekrallt, schaute hoch in die Wipfel, wo über dem Wald Sturm seit Tagen ohne Aufhören sauste. Und es standen einige um ihn und sie sagten, dass er stiller werde. Komm, wir tragen dich jetzt heim, Gefährte. Aber er stieß sie mit seinen Knien, spuckte aus und sagte, und wohin? Hatte weder Heim noch Erde. Wie viele Zähne hast du noch im Maul? Und wie ist das sonst mit dir? Lass sehen. Stirb ein wenig ruhiger und nicht so faul. Gestern Abend aßen wir schon deinen Gaul. Warum willst du nicht zur Hölle gehen? Und der Wald war laut um ihn und sie. Und sie sahen ihn sich am Baum erhalten und sie hörten, wie er ihnen schrie. Das graute ihnen so wie nie, dass sie zitternd ihre Fäuste ballten, denn er war ein Mann wie sie. Unnütz bist du, räudig, toll, du Tier. Eiter bist du, Dreck, du Lumpenhaufen. Luft schnappst du uns weg mit deiner Gier, sagten sie. Und er das Geschwür, Leben will ich, eure Sonne schnaufen und im Lichte reiten, so wie ihr. Ja, des armen Lebens Übermaß hielt ihn so, dass er auch noch sein Aas, seinen Leichnam in die Erde presste. In der frühen Dämmerung fiel er tot ins dunkle Gras. Voll von Ekel gruben sie ihn kalt von Hass in des Baumes unterstes Geäste.
On parlait de jeu, c'est assez impressionnant.
Ouais, le jeu, ou le non-jeu, ou comment peut-on le définir?
Ben, je trouve que ce qui est intéressant dans le jeu de Fassbinder, c'est qu'il est dans un jeu qui réunit de façon presque impossible deux styles tout à fait contradictoires, c'est-à-dire qu'il reste des éléments de la distanciation. Et en même temps, il y a une forte influence de l'expressionnisme allemand. Donc, on parlait tout à l'heure des films de Fritz Lang ou de Nosferatu. Tous ces films muets des années 20 qui sont absolument extraordinaires et où il y a un jeu volontairement outré des acteurs. Avec aussi des maquillages qui ressemblent presque à des masques. Et notamment, par exemple, la manière dont le regard est souligné. Et Fassbinder, qui connaît très très bien ce cinéma, va mélanger les deux choses qui, en principe, ne devraient pas se mélanger. Et il réussit à le faire et c'est ça qui rend son jeu absolument extraordinaire. C'est à la fois, il n'est pas tout à fait le personnage, c'est-à-dire il a une sorte d'auto-ironie, je trouve, et en même temps, il a ce jeu expressionniste. Et puis, il faut dire que... Enfin, moi, ce qui me fascine dans le personnage de Fassbinder tel qu'on le voit là, il a 25 ans hein, à l'époque. Il porte en lui à la fois une charge érotique très forte et en même temps quelque chose qui est déjà de l'ordre de la destruction. C'est-à-dire qu'on voit que c'est... D'ailleurs, Schlondorf le raconte que dès cette époque-là, il était en très mauvaise santé à cause des abus de toutes sortes. Et je pense que ça se voit, c'est déjà un corps abîmé par les excès d'alcool ou de drogue ou les deux. Et y a ça aussi, c'est-à-dire que cette chose impossible de cumul du jeu à la fois expressionniste et distancié, on le retrouve aussi dans le corps où il y a à la fois quelque chose de puissamment érotique et en même temps de puissamment destructeur. Et je pense que c'est une des choses les plus frappantes qu'on peut dire à propos de ce film, c'est-à-dire dès la première image, dès qu'on le voit entrer dans l'écran, la manière dont il marche, la manière dont il porte son blouson,
Dont il fume,
voilà. C'est,
dont il transpire.
Il y a des gestes. On est face à quelqu'un, je dirais, hors du commun.
Oui,
voilà.
qui en même temps complètement, pour ajouter ce que vous dites, qui semble être complètement lui-même aussi. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas dans un jeu d'acteur là pour le coup. On est Fassbinder, peut-être exprimant ce qu'il est lui aussi complètement. Et c'est ça qui frappe tout de suite, je pense, Schlender quand il voit Fassbinder jouer au théâtre, c'est qu'il y a cette espèce de désinvolture qui se voit comme ça, qui se sent, et c'est exactement ce que Schlender recherche peut-être.
Oui, en tout cas, c'est c'est aussi, on parlait tout à l'heure du dieu Baal, bon, et on pourrait dire vraiment, il y a une expression française qui est parfois mal utilisée, mais je crois qu'elle convient vraiment bien pour Fassbinder, c'est monstre sacré. Monstre sacré parce qu'il y a à la fois quelque chose de, oui, de monstrueux, et bon, le personnage est monstrueux par moment, et en même temps sacré dans ce sens qu'on est complètement fasciné. Quoi.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une perversion un peu dans ce personnage ou pas? Ou est-ce qu'on est ailleurs?
Non, je crois qu'il y a de la perversion, parce qu'en en tout cas... enfin, tout dépend de ce qu'on entend par perversion aussi. En tout cas, c'est vrai que...
Plutôt sadique, alors.
Voilà, voilà, plutôt sadique. Et je pense qu'un des traits, un des traits que de Baal, qui probablement aussi chez Fassbinder en tant qu'homme, c'est le côté manipulateur. Ça, je crois que tous les gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui... même s'ils en ont été complètement fascinés, même s'ils ont accepté tout et n'importe quoi de la part de Fassbinder, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était quelqu'un qui était un manipulateur de génie. Ouais, manipuler les gens autour de lui pour arriver à créer. Ça, c'était
parce évident. Que ce qui est hallucinant, c'est que très rapidement, il a quand même pas mal de moyens. Fassbinder pour tourner un peu ses films, même si il a envie de gagner cette liberté, etc., de tournage, de faire ce qu'il a envie de faire, il a quand même, il bénéficie de moyens de production, de la télé, de...
Oui, mais je dirais que par rapport à des super productions d'aujourd'hui, non. C'est quelqu'un qui a toujours veillé à travailler quand même dans une économie relativement modeste. Bon, c'est sur ses derniers films, c'est vrai qu'il avait plus de moyens, mais...
Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui séduit les personnes? Comment on peut lui faire confiance? C'est cette capacité qu'il a de...
Moi, je crois que c'est son pouvoir de séduction hors du commun. Hors du commun. On décrivait tout à l'heure cette scène où il apparaît pour la première fois dans le film. Tout est dit. Il a un pouvoir de séduction hors du commun.
C'est une incarnation, en fait. C'est qu'il est tout de suite présent. Parce que ce n'est pas une beauté plastique.
Non, même il est déjà gros, il est déjà... Enfin, je dirais ce que je disais tout à l'heure, il est déjà abîmé. Donc, il ne correspond pas à un canon de beauté particulier, mais il dégage quelque chose.
Ce que vous disiez tout à l'heure, une sorte d'érotisme.
D'érotisme, oui.
Mais on est loin de l'hermaphrodisme, non, quand même?
Loin de l'hermaphrodisme, mais c'est quelqu'un qui séduit autant les hommes que les femmes, dans le film et d'ailleurs dans la vie. Donc, peut-être qu'hermaphrodisme...
Mais la part féminine, du coup, de Fassbinder?
Moi, je la vois pas, la part féminine. Je pensais plutôt à quelqu'un qui séduit, quand je parlais d'hermaphrodisme, qui, plus qu'un être à la fois mâle et femelle, je pensais plutôt à quelqu'un qui était attirant à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est vrai que c'est pas vraiment de l'hermaphrodisme, mais bon, voilà.
Et peut-être comment... Bon, ça, on n'a pas évoqué la rencontre de Fassbinder et de Schlondorf. Comment ça se passe?
Alors, ça se passe... en fait, donc, Schlondorf prépare son adaptation. Et il connaissait déjà de réputation Fassbinder, mais il ne le connaissait pas personnellement. Et Margaret Van Trotta, dont il tombe à la fois éperdument amoureux, qui veut absolument mettre dans le film et qui va être sa muse, sa co-réalisatrice, enfin bon, bref, donc qui va développer son histoire avec Margaret Van Trotta. Et 15 jours ou 3 semaines après, il va au théâtre, donc à ce théâtre que dirige Fassbinder, qui s'appelle, comme par hasard, l'Antithéâtre. Qui se trouve à Munich. Oui. Et donc, Fassbinder a déjà écrit... Alors, soit il adapte, parce que là aussi, pareil, toujours ce goût pour les grands-pères, donc il adapte. Soit il écrit déjà ses pièces, il en a écrit beaucoup, et il les met en scène. Et il y a déjà une troupe plus ou moins constituée, où il y a notamment Anachigoula, par exemple, qui est déjà dans sa troupe au théâtre, et qui est la seule... je pense que c'est pour ça qu'elle est arrivée jusqu'à nous, je dirais, relativement en bon état, qui est la seule sur laquelle Fassbinder n'a jamais exercé son sadisme. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, aussi bien les hommes que les femmes de sa troupe, ils ont tous morflé un maximum, sauf Anachigoula.
Elle joue quel rôle dans...
Alors, dans Baal, c'est une serveuse à un moment donné, donc elle a un petit rôle, mais...
Ah oui, elle a les cheveux frisés.
Voilà, voilà. Ah,
Lola l'a remarqué, apparemment. Oui.
Non, non, mais bon, on la voit quand même, elle a une présence.
Elle aussi, elle est quand même d'une beauté assez hallucinante. Oui, et en fait, Fassbinder travaille... comme beaucoup de troupes, je dirais, de théâtre à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il a un groupe d'acteurs et d'actrices autour de lui, et selon la pièce, selon le spectacle, il leur donne soit des rôles importants, soit des rôles mineurs, mais il fait travailler tout le monde. Et en fait, donc, Schlöndorff va le voir. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est-à-dire que la même semaine, il va voir un spectacle et il va, avec Margaret von Trotta, il va assister à la première du premier long-métrage de Fassbinder, L'amour est plus froid que la mort. Et il se dit que là, c'est lui qui doit faire Baal, il n'y a plus de doute pour lui, c'est ça. Donc, il n'y a aucun doute. Et Fassbinder met comme condition qu'il y ait un certain nombre de gens de sa troupe qui aient un rôle dans le film. Voilà. Donc, apparemment, les deux hommes s'entendent relativement bien sur le tournage. Et c'est après que les choses se gâtent avec la veuve de Brecht qui va faire son numéro. Mais voilà, et chacun ensuite va poursuivre sa carrière à distance, mais en se respectant beaucoup, quoi.
D'accord, donc il n'y aura plus de lien entre Schlöndorff.
À ma connaissance, de lien de travail, en tout cas, non. Non, si ce n'est, enfin, indirect, Margaret von Trotta, elle, va tourner dans plusieurs films de Fassbinder.
Et on sait ce que Fassbinder pensait du film ou
je n'en ai pas connaissance, honnêtement, je ne sais pas.
Il a été accueilli comment, le film, en 69?
Ah ben, alors, il n'est pas sorti au cinéma, c'était un film pour la télévision.
Mais il est dans les festivals, il n'a pas fait un festival?
Non, absolument pas. C'était vraiment un téléfilm adapté de Brecht. Donc, c'est diffusé un soir à une heure de grande écoute.
Mais le Festival de Berlin n'a pas voulu le projeter.
Non, mais c'était pas destiné du tout au cinéma.
Oui, mais aujourd'hui, ça se fait. Enfin, par exemple, Bruno Dumont a fait une série pour Arte. En même temps, c'est passé à la quinzaine à Cannes.
Mais à l'époque, c'était vraiment deux mondes complètement séparés. Il y a vraiment très, très peu de temps. C'est depuis Arte, notamment, qu'il y a des passerelles, on va dire. Mais non,
c'était pas un film de cinéma alors.
C'était pas du tout un film de cinéma, c'était vraiment une dramatique, ce qu'on appelait à l'époque une dramatique, c'est-à-dire une pièce de théâtre.
Oui, surtout qu'aujourd'hui ça s'appelle un téléfilm. Enfin, je veux dire, la dénomination de Baal, c'est téléfilm.
Voilà, c'est ça. Donc
projeté en prime time à une heure de grand
voilà,
regard.
Voilà, à 20h30 sur une chaîne nationale.
Entre deux publicités.
Oui, et encore, je ne sais même pas. Non, je sais même pas si beaucoup. À l'époque, je pense que les chaînes d'État n'avaient pas de publicité, donc on était vraiment dans un autre monde, vous savez. Hein. Et donc, les gens, il y a eu des protestations épouvantables en disant que c'était scandaleux de montrer de telles choses à la télévision. Enfin bon, bref. Et le lendemain, c'est là que la veuve de Brecht dit « j'interdis ». Toute diffusion de ce téléfilm, voilà, il ne peut plus sortir, on ne peut plus le montrer, c'est fini.
Mais les gens avaient été payés quand même pour le film ?
Ah oui, oui, le film a été tourné dans des conditions tout à fait normales. La diffusion s'est faite en temps et en heure comme ça avait été prévu. Après, il y a eu un double scandale. Le scandale du public a été complètement suffoqué parce que le public est habitué à aller au théâtre, à voir certaines choses au théâtre. Puis quand vous êtes sur... quand vous voyez des choses sur une scène de théâtre, ça n'a pas le même impact que quand vous voyez une image. L'image, ça fait toujours plus vrai. Hein. Donc, de montrer de telles choses en 69, à la fois, c'était imaginable puisqu'ils l'ont fait. Je veux dire, les producteurs de télé qui avaient accepté ça, ils connaissaient le texte de Brecht. Hein. Quand même, ils n'étaient pas complètement ignares. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il ne s'attendait pas à une telle levée de boucliers.
Et pourtant, en 69, on est quand même à un moment où le public est sensibilisé à d'autres formes, non ?
Bah, pas le public de la télévision. Si vous regardez la télévision française en 69, c'est très sage. Hein ? Il y a deux, trois émissions en France dans ces années-là qui font un peu scandale. Bon, les émissions de Jean-Christophe Averty, par exemple. Mais sinon, c'est très conventionnel. Je dirais que les choses non conventionnelles, à cette époque-là, et elles sont nombreuses, elles se passent soit au théâtre, soit au cinéma.
Bon, ceci dit, en tant que... Pardon de vous couper. En tant que téléfilm, du coup, quelle vie il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu cette interdiction de la veuve parce qu'il était fait... Bon, c'était un téléfilm. Comme beaucoup de téléfilms, il ne passait qu'une fois en prime time et puis terminé. Est-ce qu'il aurait eu d'autres diffusions, normalement ?
Qu'il aurait pu avoir d'autres diffusions, puis surtout une sorte de pérennité. Par exemple, quand on voit en France des adaptations qui ont été faites pour la télévision... pense à le Don Juan qui avait été monté pour la télévision avec Piccoli, par exemple, qui restait un peu dans la légende de la télévision. C'est vrai que c'est des téléfilms qui ont eu après une sorte d'aura qui fait qu'on les a rediffusés, puis qui sont passés dans d'autres canaux, etc.
Oui, qui ont eu une existence, qui ont continué à vivre. Quoi.
Qui ont continué à vivre.
Ouais. Là, voilà. Il a été arrêté. Quoi.
Il a été arrêté et...
Et puis l'histoire a été arrêtée. Mais moi, là, ça me fait poser une question. Là, c'est en fait, donc, vous disiez qu'il y avait une double interdiction de celle de la comment le film a été perçu par les spectateurs et puis l'interdiction de la veuve de Brecht. Mais est-ce que... La question que je me posais, c'est que c'est laquelle a été la plus forte, parce que sur celle de la de comment elle a été reçue par les spectateurs, ce qu'ils ont reçu, eux, c'est quelque chose qui était trop violent par rapport à l'histoire que ça racontait ou...
Oui,
parce que la forme en soi, je pas trouve, moi comme je l'ai perçue, c'est une forme qui est pas, c'est ce qui s'y passe quoi, que c'est dur quoi, c'est très, oui.
C'est sûr que le film il est d'une violence inouïe quand même, d'une violence inouïe à cause du comportement de Baal qui piétine pratiquement tout autour de lui, qui est quand même saoul d'un bout de la pièce à l'autre, d'un bout du téléfilm à l'autre. Qui ne semble pas avoir de sentiments humains, entre guillemets.
De remords ou de remords. Doute.
Moi, il y a une scène, par exemple, que je trouve vraiment très dure à vivre. C'est à un moment donné, ils arrivent dans une sorte de boui-boui où il y a... un bébé qui
dit c'est un hôpital.
Une sorte d'hôpital de
psychiatrique, voilà. Mais oui, je sais pas, enfin bon,
étrange quand même,
un lieu étrange. Et je me dis, mais quand même, ils ont fait pleurer ce gosse pendant toute la scène,
et donc plusieurs scènes,
et donc plusieurs fois. Bon, je veux dire, c'est quand même très très dur, quoi. Voilà,
oui, moi c'est vrai que c'est être vulnérable tout d'un coup, voilà. Il s'est complètement
à
sa propre existence, voilà. C'est-à-dire rien du tout, et il crie comme un animal finalement.
Voilà, c'est ça.
Presque ouais. Qu'on égorgerait. C'est encore plus violent même que le fait de voir un animal mort.
Il y a par exemple toute la scène où une des conquêtes de Bâle essaie de
oui son
de
rapport ramener, aux les rapports aux femmes
qui est enceinte etc. Je veux dire, c'est quand même un film profondément misogyne.
Totalement. Ouais.
Bon, après il y a quand même une homosexualité qui est bien montrée en 69. Montrer ça à la télévision à une heure de grande écoute, c'était pas évident, même si ça existe déjà chez Brecht. Mais chez Brecht, c'est des paroles, si vous voulez. Hein, quand on lit son texte, c'est des paroles.
C'est pas le corps qui est en jeu, voilà, quoi. Moi, il y est moins, quoi. Mais justement, par rapport à ça, moi, je me disais, au-delà de la problématique avec la veuve de Brecht, je me disais qu'un film comme ça, s'il n'y avait pas eu cette interdiction de la veuve de Brecht, il n'aurait pas non plus continué. Je me posais cette question-là, tellement il a une violence en lui.
En même temps, le cinéma de cette époque-là, et spécialement en Allemagne, c'est quand même un cinéma qui tire à boulets rouges sur les idées bourgeoises. Où la violence, est un élément constitutif de ce cinéma. On le retrouve aussi dans certains films américains contestataires de la même époque, un peu moins chez les Français.
Qu'est-ce qu'il y a dans le monde
un peu chez les Italiens, quoi.
Mais chez les Italiens, ça, je dirais que c'est moins agressif. Peut-être chez Risi, quand vous regardez Affreux, sale et méchant. Voilà. Bon, d'accord.
Après, il y a Salo de Pasolini.
Salo de Pasolini, oui. Mais je dirais que dans l'ensemble, le cinéma italien, même s'il conteste violemment le monde, il garde un côté... il aime l'humanité, voilà, je vais le dire comme ça. Je ne suis pas sûre que le cinéma allemand de cette époque-là soit un cinéma humaniste. C'est un cinéma qui est en révolte. Je ne sais pas si c'est un cinéma qui aime l'être humain, par exemple.
Voilà. Et Sam Peckinpah, c'est 69, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut rapprocher des choses, non, de ce cinéma? Enfin, au niveau de...
Non, parce que, si vous voulez, moi, il me semble que Peckinpah, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est la fascination de la violence, c'est-à-dire les balles, les impacts de balles au ralenti, le sang qui coule au ralenti. Bon, chose qu'on ne trouve pas du tout dans le cinéma allemand. Ce n'est pas ce type de violence. Si vous voulez, dans le jeune cinéma allemand, c'est vraiment une violence politique. Voilà, c'est... il faut faire péter le monde dans lequel on vit, il faut éventuellement en construire un autre, mais en tout cas, le premier pas, c'est de rejeter complètement et violemment le monde dans lequel on vit. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans la société allemande, donc le mur, il est construit en 61, et je veux dire qu'il va y avoir, après les mouvements contestataires en Allemagne, ils vont prendre une tournure extrêmement violente. C'est-à-dire, il y a une partie des contestataires qui vont aller vers la lutte armée. Chose, par exemple, oui, en France, il y a eu Action directe, mais ça a été vraiment, toute petite fraction de la société. En Allemagne, avec la bande d'Abadère, c'est quand même autre chose. Et la bande d'Abadère, précisément, elle commence ses premières actions, ses premières attaques de banque. Elle ne s'appelle pas encore Faction Armée Rouge, mais elle commence précisément en 69, c'est-à-dire l'année du film. Et à mon sens, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que ce refus violent de cette société bourgeoise, elle est à vif en Allemagne à ce moment-là. Il y a eu des manifestations d'une ampleur considérable en 67, donc peu de temps avant la fabrication du film, quand le Shah d'Iran, qui était encore au pouvoir et qu'on considérait comme un dictateur terrible, donc va venir en Allemagne, il va y avoir des millions de personnes qui vont se dresser contre le gouvernement allemand qui accueille ce dictateur, par exemple. Les manifestations de 67 contre le Shah sont spectaculaires. Après, il va y avoir 68 en France, mais les mouvements vraiment vont être radicaux. Je crois que c'est en 67 aussi, il y a un type dont on pense qu'il était d'extrême droite ou peut-être envoyé par la Stasi, on ne sait pas trop, qui va essayer de tuer en fait un des leaders de l'extrême gauche qui s'appelait Rudi Dutschke. C'est un attentat. Bon, il sera pas tué, mais il mourra quelques années après des suites de cet attentat. Il avait reçu plusieurs balles dans la tête. Moi, je pense que vraiment l'Allemagne, elle est dans une situation de tension et de violence qui est sans comparaison par rapport à la France à la même époque.
Et au Japon, j'ai l'impression, le cinéma japonais.
Je ne saurais pas vous parler de la société japonaise. C'est vrai qu'il y a cette nouvelle vague japonaise qui est aussi extrêmement violente, ouais, qui est aussi extrêmement violente.
Érotique aussi. Enfin.
Mais je pense que quelque part, c'est aussi des sociétés avec le Japon, l'Allemagne et dans une certaine mesure l'Italie, encore que l'Italie soit un peu différente. C'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, on en revient toujours à ce point central qui est ce rejet absolu des pères. Donc c'est les trois pays où il y a cette violence, vraiment où on passe à la lutte armée dans une société occidentalisée ou en tout cas d'un niveau de vie important, c'est effectivement le Japon, l'Allemagne et l'Italie avec les brigades rouges d'un côté, la bande Abader, etc. Mais en France, même après 68, on n'est pas du tout passé. Bon, je vous dis encore une fois, il y a eu quand même l'exception d'Action Directe.
Mais c'est plus tard, Action Directe, non ?
C'est un peu plus tard. C'est plus tard, dans les années 70.
Ouais, 70, 80, début 80.
Voilà. Mais pour les Allemands, c'est quelque chose. Et de façon très intéressante, dans les mêmes années, naît le mouvement des Verts qui va lui aussi. Alors, c'est marrant. Il y a un fleuve qui va donner deux bras. C'est à la fois la lutte armée d'un côté, et je peux vous dire que vraiment l'État allemand sera absolument sans pitié avec ces gens qu'on pourrait considérer comme des terroristes dans un certain sens, mais enfin ils ne sont pas allés de main morte. Et d'un autre côté, tout le courant qui va devenir un courant écologiste et qui va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus construit en Allemagne que ce qu'il n'est jamais devenu en France. Donc tout ça, c'est l'époque du film. Hein.
Je crois qu'il nous reste 3 minutes. Le film est sorti là, mercredi dernier. Ouais. Il est visible aux Variétés à Marseille. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce que ce film a à nous dire aujourd'hui ? Enfin, le fait qu'on puisse le voir... qu'à partir de 2014.
Écoutez, moi j'ai envie de vous renvoyer la question parce que pour moi c'est vrai que ça me replonge dans une époque que j'ai vécue intensément Et ça me fait mesurer, alors je ne sais pas si on peut dire l'ampleur de l'échec ou l'ampleur de la catastrophe, mais c'est ça que ça me montre. Mais c'est plutôt à vous, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est à vous de dire ce que ça vous évoque. Moi, je serais curieuse de l'entendre.
En tout cas, ça nous a donné envie de faire une émission radio avec vous, et ça nous a donné du désir. Du coup, ça nous a...
Oui, c'est vrai. Non, je pense qu'il y a un endroit où ce que vous dites, moi, ça me parle, de cette question, parce que oui, il m'a donné envie de faire l'émission, Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi... qui était aussi retournant que ça. Je pense que peut-être le dernier que j'avais vu, c'était un film d'un réalisateur russe dont son nom est très compliqué. Comment il s'appelle ?
Arthur Aristakissian.
Voilà, qui se passe en dessous de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle.
Palms.
Non, ça c'est pas, c'est l'autre. Mais ça faisait longtemps, ouais, un film qui parlait d'une énergie à la fois de vie et de mort aussi puissante, et puis qui pouvait exister par la télévision, ce qui est, quand on voit la télé maintenant, ce qui existe, c'est complètement un autre monde, quoi. Là, la distanciation, on ne se la pose pas, hein, c'est identification totale, quoi. Donc oui, moi, à l'endroit, ça me parle comme ça. Après, je pense que chaque époque a ses choses, et peut-être qu'en ce moment, il se passe aussi des choses qui peut-être, je ne sais pas si ça nous amènera là, mais ça nous amènera peut-être à d'autres endroits. Voilà, ouais.
En tout cas, c'est toujours bien de connaître les pères, les grands-pères, parce que pour savoir où on va, il faut toujours savoir d'où on vient. Donc. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'on aimerait encore parler des heures et des heures avec, avec vous. Parce que c'est,
Mais de toute façon, on va se retrouver, comme on s'est dit, parce que je pense que l'histoire du cinéma de Fassbinder, du jeune cinéma allemand, il y en a encore beaucoup à dire, que ça nous intéresse, et puis qu'on va se retrouver je crois que ça sera février, le premier lundi de février. Ouais. Peut-être qu'il y aura des nouveaux invités.
Puis que ça nous donne envie aussi de projeter des films, hein, certainement de Schlendorf, si on a l'occasion. On pensait à ça avec David tout à l'heure, et l'eau. Ça donne vraiment envie de revisiter tous ces films, et en tout cas de partager, trouver le moyen de le faire à Marseille.
En tout cas, oui, on fait la prochaine émission. On peut se dire qu'on ça sera autour de Fassbinder. Il y a Dargy qui sera sûrement avec nous. Il y a Gabriel aussi.
Voilà, Gabriel, peut-être Till Rosken ou Aaron Sievers, cinéaste, on va dire entre guillemets allemand, mais français. Et puis si vous avez envie de venir, ça nous fera plaisir.
Merci beaucoup, Jeanne.
Voilà.
Merci.
Bonne fin de soirée. Merci à vous, Radio Galère.
Et allez voir Bâle.
Voilà, allez voir Bâle. Voilà, voilà. Bonsoir.